Les colloques du Collège de France.
Le titre de l'exposé de Mireille Kalgreber est « Des œuvres complètes au cahier Butor qui sont là », édité Michel Butor, ou « Comment faire vivre l'amoureux vêtement sans fin de la littérature ». Vous avez la parole.
Je vous remercie beaucoup, Carlos Sola, d'avoir lancé cette invitation qui est vraiment l'ouverture, effectivement, de l'annonce d'une année très riche en hommage à Michel Butor. Et merci surtout de nous avoir fait entendre et de nous avoir montré la présence de Michel Butor et la présence et la voix de ce piano magnifique de Jean-François Esser. Donc ce colloque que vous avez intitulé « Michel Butor, une histoire entière de l'humanité » ouvre en effet tout grand la porte aux 1001 battants de sa production. 1001, il faut bien ça pour donner accès à une œuvre torrentielle, polymorphe, aux dimensions astronomiques de nébuleuses. Incontournable à tous les sens. Œuvre qu'on ne peut esquiver, mais qu'on ne peut dessiner les contours, toujours débordée, toujours repoussée au-delà des limites. Michel Butor, écrivain, lecteur, poète, critique, photographe, plasticien, musicien, professeur, conférencier, voyageur, sage et érudit, n'aura cessé de poser la question, de se confronter, de nous confronter à la question de l'entièreté, où le désir d'embrasser la totalité du monde, de la connaissance, qui est un vieux rêve humaniste, ce désir de totalité n'a d'égal que la conscience aiguë de la finitude de l'humain et de ses pertes de connaissances. En somme, c'est le principe même d'œuvre, selon Michel Butor, qui constitue sa dynamique de création contradictoire. Œuvrer, c'est opérare, opérer tel un ouvrier à l'atelier, sans oublier que l'art en grec c'est techné, qui fait droit à la technique, et que l'écriture de poésie, poiein, signifie faire, fabriquer. L'œuvre se façonne sérielle en remettant sans relâche l'ouvrage sur le métier. La réunion des œuvres complètes de Michel Butor aux éditions de La Différence, que j'ai eu l'honneur et la lourde tâche de diriger, fut sans doute le chantier le plus grandiose et le plus probant quant à la problématique de l'incomplète complétude. De 2006 à 2010, 12 000 pages environ sont parues en 12 volumes, regroupées dans un coffret réalisé par Jean-Luc Parent, portant l'emblème d'un oiseau Butor signature. Vous savez, il signait toujours comme ça. Cette aventure se terminait par un texte inédit de Michel, problématique des œuvres complètes, et il faisait le constat de l'incomplet. Nous avons alors décidé de revenir à l'atelier tous les deux pour une deuxième aventure qui aurait été éditer des œuvres complémentaires. Ce qui resta à l'état de projet du fait de la mort brutale de Joachim Vital, le directeur de La Différence, et faute de moyens. D'où la troisième aventure, qui fut lancée du vivant de Michel et avec lui, éditer des cahiers Michel Butor, qui donnent leur place au compagnonnage artistique de l'écrivain. Ces publications sont en cours, 3 volumes sont parus à ce jour, et j'en parlerai tout à l'heure, je les ferai passer. Ce sont ces perspectives donc que je vais reparcourir avec vous. D'abord, les vues sur la littérature qui déménage. Étrangement, le constant désir de Michel Butor de voir éditer ses œuvres complètes n'a eu d'égal que sa capacité, je dirais presque sa malice, d'échapper à toute clôture et que sa puissance d'invention de formes littéraires inédites, pour ne pas dire inéditables, comme s'il jouait en quelque sorte aux échecs contre lui-même. Le paradoxe n'est pas mince en effet que de souhaiter la complétude tout en mettant en branle, en toute conscience et connaissance de cause, la fragmentation inhérente à l'écriture. Tenter de comprendre l'impossible entreprise d'éditer tout Michel Butor exige de considérer la pratique littéraire d'un des écrivains les plus prolixes de notre temps. C'est-à-dire de tenir compte d'une production dérégulée avec méthode, d'un mélange des genres systématique, d'une écriture attentive à la Babel des langues et cherchant alliance avec toutes les énergies créatrices. Bref, de considérer la volonté de Butor de déserter les codes de communication et par tous les moyens de faire que la littérature déménage à tous les sens, déplacements métaphoriques, éditoriaux, folie du sens et des sens. Tout cela afin de lui faire dire et lui faire faire autre chose à la littérature. Autant d'audace qui touche à la forme même du livre, dont il aura fallu inventer des transpositions pour les œuvres complètes. Nous avons d'abord eu affaire à des muses rapiécées. Comme le chiffonnier de Baudelaire, que Michel aimait particulièrement, qui fait des trajets en étoiles, ramassant, je cite Baudelaire, tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, et qu'il catalogue et collectionne, faisant un choix intelligent, le poète Michel Butor, ivre de livres, va, je cite encore les paradis artificiels, hochant la tête et butant sur les pavés, comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à chercher des rimes. Ou encore comme le visionnaire de l'hétéroclite que fut Lautréamont, Michel Butor l'hospitalier recueille les eaux de la mémoire et le flux mascaré des images. Il les retape à coups d'écriture, il les réaccorde, les refaçonne en dessins énigmatiques selon le principe du beau comme un mémoire sur la courbe que décrit un chien courant après son maître, Lautréamont. Ces libertés d'écriture inspirent à Michel Butor l'utilisation des techniques d'une sorte d'arte povera, des combinatoires insolites de mots, de récits, de fragments hétérogènes, dont il forme un texte quilt ou un manteau d'arlequin cousu de pièces et morceaux devenant corps et âme de l'imaginaire. C'est ainsi qu'il décrit, je le cite, « le menton du texte sur l'épaule des images », les phalanges du trait dans la paume des phrases. C'est dans l'horticulteur itinérant. Le texte perd ainsi sa suffisance et ses coups de menton péremptoires. Il s'en remet à la puissance fantaisiste des images, intérieures comme extérieures. Quant à la main d'écriture, c'est elle qui rythme la production organique de l'œuvre, toujours construite par série de 5, en référence aux 5 doigts de la main. Il y a 5 génies du lieu, 5 répertoires, 5 matières de rêve, 5 improvisations. Ainsi, l'écrivain mène-t-il parallèlement et de concert toutes ses voies ouvertes parallèlement. Lorsqu'une série est close, Michel Butor ouvre le registre d'un nouvel intitulé. Parfois, la série n'a pas été terminée. Il n'y a par exemple que 4 illustrations. Prendre en compte ces parallèles divergentes et convergentes de la production littéraire de Michel Butor, ce fut une des gageures de l'édition des œuvres complètes. Autre façon de rapiéçage, non seulement la réutilisation physique de nos déchets, papier, images, choses cassées, mais aussi le recyclage intellectuel des gaspillages de nos pratiques de consommation pour en faire matière à réflexion poétique et politique. Je cite Michel Butor dans un entretien que nous avions eu. « Cette question des déchets m'intéresse beaucoup et j'aide les artistes qui réussissent à recycler intellectuellement tout cela, qui réussissent à nous faire comprendre à quel point l'idéologie habituelle de la croissance est une absurdité criminelle. » Paroles prononcées en 1990 qui sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Les muses de Michel Butor, donc rapiécées, invite le poète et ses artistes à prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes rapiécés, faits de briques et de brocs linguistiques et culturels. Elles appellent à prendre acte, à dépasser l'illusion d'identité et d'unité, à accueillir l'étranger, les surprenantes étrangetés, à composer. La composition est mère d'imaginaire et d'invention, et de tolérance. Les muses sont hors du logis, il les appelle les folles du logis. Et Michel Butor, avec elles toutes, déménage et avec la littérature passée, présente et à venir. Car, dit-il, on n'écrit jamais seul. On écrit toujours pour, à l'intention de et avec quelqu'un et tant de choses et d'événements qui interviennent. Butor ne manque pas d'inscrire ce singulier pluriel de la création. Alors que nous préparons les œuvres complètes, il m'écrit sur carte découpée composée « Ce titre envoie, qui est donc le titre d'un recueil, est dû aussi à mon intense pratique postale. Je n'ai jamais pu m'habituer au téléphone et encore moins au courriel. » Envoie est dédié à ceux qui lisent dans le métro. Express est dédié à ceux qui acheminent les lettres. Butor réemploie la forme lyrique de la ballade qu'il fait précéder ou suivre d'un prélude ou postlude hommage. Ainsi, ballade des froissements du monde salue les collages froissages de Hirji Collage. L'école des gisants, In Memoriam Georges Perros, évoque l'ami et la nostalgie de la conversation perdue. Le prière d'insérer d'Express l'annonce d'emblée. À travers ce livre, je cite Michel Butor, passent les fantômes ou reflets d'amis admirés. Cela forme comme 7 grandes strophes avec en refrain les glas et les joies. Rendez-vous poétique postal, c'est un renouvellement de la littérature à la façon des surréalistes et la conviction de l'utilité poétique que Michel Butor aura toujours défendue. C'est dire que l'écrivain s'emploie à s'affranchir des catégories canoniques de la rhétorique et de la poétique, à inventer des genres littéraires hybrides qu'il nomme capriccio, mobile, génie du lieu, boomerang, transit, intervalle, réseau aérien. Il y faut des collaborations par quoi régénérer les ressources de l'imaginaire et libérer le potentiel de créativité. Je cite l'une des strophes d'un long poème qui intitulé « Requête aux peintres, sculpteurs et compagnie ». C'est la première strophe. « Ne me laissez pas seul avec mes paroles, balbutiements, bafouillements, radotages et ruminations. Dans mon brouillonnement-bouillonnement, dans l'essoufflement de mon bavardage, dans mon donjon cachot tour de Babel, j'ai le plus grand besoin de vos images, de vos fenêtres qui s'ouvrent sur le geste et la couleur, de vos escaliers qui s'enfoncent dans les ténèbres, pétillant aux étincelles tièdes, de vos belvédères, de vos caresses, de vos jardins. Permettez-moi de voir en votre compagnie. » Ce sont les horizons infinis d'une collaboration qui s'avère avec le livre d'artiste où les partenaires font œuvre ensemble et avec ensemble. Pour Michel Butor, cette pratique collaborative sera désormais une étape vers la composition de ses grands livres. Il organise la migration des textes d'un livre à l'autre. Il les recompose plus largement, telles les tesselles d'une mosaïque. Ce réemploi des textes réinvente l'œil lecteur. Changer l'angle d'approche, c'est changer les habitudes et les mentalités. Le livre qui livre et délivre est par excellence transit. Rien n'est jamais perdu pour un écrivain, déclare Michel Butor à l'Université de Genève. Tout est à accueillir, cueillir, au présent, à plusieurs mains et en plus d'une langue. Par exemple, le poème « Le crépuscule sur Bagdad », « Les demi-frères », je cite le premier vers, « Israël, Ismaël, c'est toi, mon demi-frère, sois mon frère ». Ou encore « Réclamation universelle des droits de l'homme », tout comme les inflexions de la poésie chinoise des Tang dans « Nuit de Chine », les rites des fêtes indiennes en Amérique dans « Où le deuxième génie du lieu », ou la complainte de la momie de l'ancienne Égypte, « Monologue de la momie ». Oui, c'est bien l'histoire de l'humanité, sinon entière, du moins panoramique, qui bourdonne dans les textes de Michel Butor, telle une formidable ruche industrieuse et explosive. Et je cite une des strophes de « Réclamation universelle des droits de l'homme ».« Questionneur de tous les pays, de tout âge, sexe, couleur, unissons-nous pour réclamer le droit de connaître nos droits, pour rappeler à leurs devoirs ceux qui voudraient nous empêcher d'ouvrir la fente de nos voiles, d'agrandir le trou des serrures. » la relation de l'écriture aux œuvres des artistes va plus loin et plus longtemps que leur coprésence ponctuelle dans un livre d'artiste. C'est un véritable mouvement import-export des formes éditoriales en devenir dans les œuvres de Michel Butor. Après la collaboration collaborative, en effet, qui a donné le livre rouleau, le codex, le coffret, le pliage, le leporello, l'origami, les livres paravent, les livres à trous, à languettes, les livres cartes, les livres collages, les livres mobiles, et je pense, j'en passe, Michel Butor reprend ses textes, cette fois-ci sans les images et seul, et il les organise en ensemble composé. Pourtant, il conserve dans cette reprise les textes, dans les textes la trace de la forme artistique qu'ils ont eue d'abord. Il exporte ainsi des audaces artistiques à l'intérieur de l'édition des gros livres qui en est toute bouleversée, dérangée par la puissance in absentia du fer artistique dont les textes portent l'empreinte. Empreinte du collage des écrits, mais aussi du corps des matières supports qui a constitué ces textes et façonné l'impression typographique. Par exemple, dans la série des génies du lieu chez Gallimard, un boomerang est imprimé en trois couleurs, rouge, bleu, noir. Dans Transit A, Transit B, troisième génie du lieu, c'est un volume à deux entrées, tête bêche, si bien que la fin se trouve au milieu du livre que l'on doit sans cesse retourner. Gyroscope, le dernier volume, encore plus audacieux, format à l'italienne, présente un texte à quatre bandes qui requiert une lecture zapping puisqu'on ne pourra jamais lire quatre colonnes en même temps. Le travail éditorial tient donc de la sculpture. L'atelier typographique est requis dans tous ses moyens, taille, corps, ancrage et caractère. La mise en page trace avec les lignes et les blancs des équateurs, des antipodes, des textes à rayures, comme il les appelle. Le livre, dit Michel Butor, est semblable à un corps, avec ses ossements, ses humeurs et souffles. C'est un corps vivant. L'écriture a sa chimie propre, que Butor décrit avec délectation. Je cite l'ouverture de Illustration 4. Des textes liquides qui ruissellent sur les pages, soit seuls, soit l'un en haut et l'autre en bas, mêlant et démêlant peu à peu leur courant. Entre ces immersions, des textes solides se détachent au milieu devant ces eaux mêlées qui les reflètent et les éclairent sans les mouiller. Des textes gazeux, bulles, verbes, vapeurs, fusent au contact de ces éléments, animent leur respiration. La déclaration de l'écrivain lors d'un entretien avec Roger Borderie en 71 est révélatrice de sa démarche. « La poésie, dit-il, vient sans cesse malgré moi. Je fais tout ce qu'elle peut pour qu'elle continue à venir malgré moi, qu'elle me déborde. » La substitution du pronom, au lieu de l'expression attendue « je fais tout ce que je peux, je fais tout ce qu'elle peut », dit assez le lâcher-prise d'une écriture à l'écoute flottante des mots et des images. Michel Butor l'affirme « j'écoute les images ». Ce faisant, il, Butor, et elle, la poésie, font tout ce qu'ils ne peuvent pas pour rendre acrobatique l'édition de leur ouvrage. Surtout lorsqu'il s'agit des œuvres complètes qui exigent l'harmonisation formelle de toutes les normes, de tous les tomes. De livre en livre, une écologie de l'imaginaire est en expansion. D'où la question cruciale concernant l'œuvre entière, l'œuvre complète, par où commencer, ou plus exactement, où commence l'œuvre. Car pour Michel Butor, on restreint le champ d'action d'une œuvre si on la limite aux ouvrages publiés par l'auteur ou publiés posthumes. Car il y a ce qu'il appelle la littérature dormante. Un halo de documents à l'existence plus ou moins précaire ou ruiniforme et présentant des degrés de littéralité, de littérarité plus ou moins élevés. Il en donne la définition, c'est de la littérature qui est comme les eaux dormantes, elle va être une réserve extraordinaire pour le reste de l'œuvre, une espèce de nappe phréatique. Analysant ce halo, Butor détaille. Il y a d'abord le noyau dur, constituée par l'ensemble des textes publiés et donc validés par l'écrivain. Puis autour de ce noyau gravitent des zones et des ondes, les inédits publiés après sa mort, qui sont dans un état de plus ou moins grand achèvement, d'où un problème d'autorité lorsqu'il faut trancher entre les variantes. Plus fou encore, des textes fruits d'une collaboration, question majeure pour Butor, dont les livres d'artistes, par exemple, mais aussi les réalisations musicales, mais aussi la correspondance. Plus éloigné encore, il y a les documents de la famille, une littérature familiale à usage privé qui n'est pas écrite dans le but d'être publiée ou qui est parlée. Par exemple, les conversations à table, les histoires racontées par les ancêtres, les histoires liées à des objets. On pense bien sûr à Natalia Ginsburg, à son lessico familiare, c'est-à-dire tous ces mots qui sont une sorte d'idiome familial. La littérature dormante, c'est donc tout cela qui nourrit en secret l'œuvre publiée. La circonscrire précisément est d'autant plus difficile qu'elle est souvent détruite, nous dit Michel Butor, et ne nous parvient que fragmentaire, comme en échantillon. Il en va de même pour nos bibliothèques et nos lectures. Nous vivons dans les ruines de la littérature, se lamente Michel Butor. La littérature est inscription provisoire. Et nous devrions tous avoir le sentiment que nous sommes des archéologues en train de reconstituer ce qui échappe perpétuellement. Autrement dit, c'est sur des ruines et en dépit de la destruction généralisée que pourra advenir une tentative de restitution des œuvres complètes. Je cite encore Michel Butor, « Il nous appartient d'essayer de saisir, et c'est extraordinairement difficile, le phénomène littéraire ou textuel dans toutes ses dimensions pour comprendre que chaque œuvre particulière résonne avec diverses sortes d'alentours et que ces alentours sont pleins de lacunes. » Autre obstacle au standard de l'édition, les citations hors calibre de Michel Butor. Butor trace un parcours de lecture interprétatif à l'intérieur du texte de l'autre, ce qui le conduit à faire un assemblage de très longues citations, ouvrant des angles de vue novateurs. Mais cette pratique est à l'opposé de la coupe du texte et du prélèvement hors contexte en usage dans la critique universitaire. Les citations de Butor sont sans référence, crime de lèse-majesté, ni de notes en bas de page, alors que, normalement, l'universitaire extrait quelques éléments qui servent sa démonstration, Butor, lui, soumet son mouvement à l'allure du texte et se met à son service. La citation est alors une incitation à la recherche. Le lecteur chercheur doit retourner au livre où il doit retrouver le passage. La citation, davantage encore, est une incitation à aimer. Michel Butor ne se glisse pas seulement dans le texte, mais parfois dans la figure de l'énonciateur. Ainsi, le Cantique de Matisse, où « je » confond le discours rapporté du peintre Matisse et la parole performative de l'auteur Butor, ce qui transforme l'essai en récit, l'archive en existence, la représentation en présent et la distance critique en empathie. L'essence de l'écriture, c'est la relation amoureuse. « On écrit pour être aimé », déclare Barthes. Et Michel Butor reprend en écho cet adage et l'applique à sa lecture de Barthes. « J'écris pour l'aimer et pour le faire aimer », écrit-il dans La Fascinatrice, qui est donc une analyse du texte de Barthes. Ainsi, Michel Butor apprend et enseigne à aimer les mots qui tissent le vêtement sans fin de la littérature. Le langage le plus tranchant réussit à tisser finalement littérature, une caresse lumineuse, un amoureux vêtement devenu peau qui ne dérobe que lui-même infiniment. Un ouvrage de Michel Butor, quel que soit le genre littéraire, c'est un bouquet d'intelligence sensible. C'est l'atelier en miniature, c'est un œil magique, c'est le grand bout et le petit bout de la lorgnette rapprochant soudain les mystères de la création. Alors, comment éditer tout cela complètement ? Tel était l'état des lieux de l'œuvre Butor lorsque Michel Butor me fit demander par l'éditeur de La Différence de diriger l'édition de ses œuvres complètes en 2005. Nous n'en avions jamais parlé, l'idée ne m'avait jamais effleuré de m'atteler à cette gigantesque et impossible entreprise. J'étais partagée entre sidération et anxiété, mais comment aurais-je pu refuser cette marque de confiance ? Situation très singulière, il s'agissait d'éditer les œuvres complètes de Michel Butor avec Michel Butor. Ce fut véritablement la chance, tant il y avait de décisions à prendre, et le risque de trahir l'intégrité de l'œuvre et les volontés de l'auteur. Au plan de l'éthique, du droit moral, du respect de l'œuvre, j'étais déchargée. Ce n'étaient pas des œuvres complètes post-mortem, c'était des œuvres complètes in vivo, des œuvres en collaboration avec l'auteur. Ensemble, nous étions tenus à l'impossible. Ce fut intense et joyeux, comme toujours avec Michel Butor, plein d'une énergie gaie et adepte du gai savoir. L'éditeur voulait un rythme rapide de publication. Ce furent 4 volumes la première année, 2 au printemps, 2 à l'automne, afin que d'emblée soit donnée à lire la diversité des genres de l'œuvre Butor. C'était à la fois une stratégie éditoriale, attirer des lecteurs divers, et le respect de la production littéraire de l'écrivain, qui a toujours mené de front ses diverses formes. Il a fallu répondre à la double exigence d'éditer et de publier, ce qui n'est pas la même chose. Éditer donne une existence à l'ouvrage, publier s'adresse à des publics. Or, les livres de Michel Butor, selon leur facture, à des publics très différents, plus ou moins nombreux ou confidentiels. Il a fallu respecter la double injonction, chronologique pour les œuvres complètes, sérielle pour l'œuvre. Et bien sûr, la capacité d'un volume de recueillir un certain nombre de pages et pas au-delà, en l'occurrence, de 1200. D'où la recomposition intérieure des volumes, l'utilisation de jaquettes où j'ai mis les portraits de Michel qui vieillissaient au fur et à mesure que se publiait l'œuvre arrivant à sa fin, et le respect des séries, puisque ce sont les textes, les titres de Michel Butor qui intitulent chaque volume. Il a fallu recalculer la distribution du texte sur les pages des œuvres complètes, qui étaient d'un format différent, car comme Rimbaud, Butor est philomathe, et les formes poétiques sont rythme, c'est-à-dire mathématiques. Notamment, heureusement que Michel Butor était là pour calculer comment on passe de 4 colonnes parallèles de gyroscope au format A4 des œuvres complètes. Il a fallu renoncer au titre, ou plutôt faire que le titre ne titre pas tout, parce que Michel Butor déborde toujours ses titres, et que les livres contenaient non seulement, par exemple, matière de rêve, mais aussi un morceau de gyroscope, en l'occurrence. Il a fallu créer un ensemble de paratextes, certes une chronologie biographique, mais aussi une bibliographie de pré-publication, car les textes et fragments ont été édités, puis repris plusieurs fois sous plusieurs formes éditoriales. Il a fallu non seulement des tables des matières, mais des tables des migrations des textes, afin de retracer les déménagements textuels d'un volume à l'autre. Et puis bien sûr, une introduction générale pour chacun des 12 livres que j'ai rédigés, ainsi qu'une note contextuelle avant chaque œuvre regroupée. Il a fallu faire place aux fantômes. C'est ainsi qu'on désigne, vous le savez, le carton blanc qui indique sur l'étagère des bibliothèques la place d'un livre en circulation. Or, dans certains volumes où le même texte a déménagé dans des combinaisons différentes, nous n'avons pas répété ces pages. Nous avons laissé un blanc avec renvoi référencé qui marque l'emplacement, et il faut donc effectuer quelques enjambements de lecture entre les 12 gros volumes des œuvres complètes pour retrouver ces fantômes. Il a fallu rédiger un index, livret 13, le plus petit, le plus maigre de l'ensemble, élaboré par Sarah Anaïs Crevier-Goulet, qui est chercheuse chez nous, pour mieux toucher du doigt l'œuvre de Michel Butor, comme elle l'intitule dans son liminaire. Car avant de faire circuler les volumes des œuvres complètes, il importait d'organiser la circulation à l'intérieur de ces volumes. Enfin, il a fallu mettre en œuvre la collection des cahiers Michel Butor en complément à l'incomplétude dormante. Ils donnent accès aux nourritures premières, c'est-à-dire aux œuvres d'art, aux rencontres, aux voyages qui ont suscité les écrits de Butor. Trois cahiers sont parus à ce jour, Compagnonnage de Michel Butor avec Jean-Paul Morin et Adèle Godefroy, Michel Butor et les peintres avec Patrick Sutter de l'Université de Berne, Michel Butor en musique avec Marion Coste à Sorbonne que nous entendrons cet après-midi, et en préparation, nous avons les objets de Michel Butor avec Sarah Naïs Crevier-Goulet. Et nous avons, bien sûr, là encore, comme disait Michel Butor, beaucoup de pain sur la planche. Éduté Butor, c'est donc entrer dans le mouvement irrésistible des variations. Les œuvres complètes de Michel Butor ne constituent pas une version définitive, comme on l'entend d'habitude. Ce sont des variations sur les variations. Toutes coexistent, révélatrices et de potentiel. Confidentielles pour les plus dormantes, elles voyagent de main en main au secret des amitiés. Multiplier les formes de la création, c'est rendre le doigt de la lecture, l'index de la lectrice ou du lecteur, plus révélateur, c'est-à-dire plus émancipateur que jamais. Et je voudrais lire, pour ne pas terminer, quelques-unes des strophes que Michel Butor a écrites, bien sûr, à l'ouverture de l'index, qu'il appelle l'index révélateur et qu'il a dédié à Sarah Naïs Crevier-Goulet. C'est en fait, vous verrez, en prenant tous les sens de index, la description de l'expansion de la bibliothèque qui est Transmission des Lumières, et c'est aussi l'autoportrait de son œuvre vers une histoire entière de l'humanité. L'index révélateur. Je vais pouvoir enfin savoir de qui j'ai parlé dans mes livres et même ce que j'en ai dit. J'aurai sûrement des surprises, car si je l'ai su autrefois, au moment où je l'écrivais, cela s'est maintenant enfoui dans une sédimentation. Lors du festin de Balthazar, un index de flamme traça sur le mur où se répandaient les ténèbres de la soirée les mots de culpabilité, dénombré, pesé, divisé, ce qui fut traduit par Daniel comme effondrement de l'Empire. Mais pour esclaves prisonniers, ce que nous sommes tous un peu, c'était une libération. Les coffres forts allaient s'ouvrir, on allait pouvoir profiter des trésors qui s'étaient cachés pendant les années d'oppression, les ponts retraversant les fleuves. Ainsi, fouillant de page en tome, débordant vers d'autres ouvrages, dans la ruche bibliothèque et même au-delà des rayons, vers musées et conservatoires, tous les paysages célèbres et les alentours inconnus où passent les nouveaux visages, index des livres interdits par les inquisiteurs d'antan, jardin des lectures secrètes, bouleversement du langage, dans les dialogues entre langues, les messagers de la lumière, mettant le doigt sur les blessures en cours de cicatrisation. Les doigts désignent d'autres doigts, cela fait des anneaux, des spires, des éclairs en arborescence, illuminant les profondeurs où dormait le savoir ancien, pour en éveiller les semences, d'où jailliront sciences nouvelles, dans l'amélioration du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.